RFI. Grand reportage.
C'est un bras de fer en pleine mer, mer de Chine méridionale, une zone riche en gaz naturel et en poissons que Pékin revendique très largement. Et le fait savoir, garde-côtes, flotte militaire et commerciale, la Chine entend montrer qu'elle est chez elle. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du président Ferdinand Marcos Jr., les Philippines organisent la résistance, Manille se rapproche de Washington et l'archipel cherche à attirer l'attention du monde sur la domination chinoise, jugée illégitime par un tribunal d'arbitrage en 2016. En mer de Chine, la réplique des Philippines à Pékin, c'est un grand reportage de Nicolas Roca.
À la base aérienne Antonio Bautista, l'équipage de l'armée de l'air philippine se prépare. Dans quelques instants, le NC-212I s'élancera de cette longue piste de décollage qui fait partie des installations militaires estampillées ETCA. Cet acronyme désigne l'accord de défense qui lie les États-Unis et les Philippines. Pour la base aérienne, cela signifie qu'en échange du financement de Washington, l'armée américaine peut avoir accès à ces installations. Centre de commande, entrepôt de munitions, amélioration de la piste de décollage, le site a fait peau neuve. Des améliorations liées à son emplacement, il s'agit de la base la plus proche des îles Spratleys. En survolant cet archipel contesté par la Chine, le déséquilibre des forces saute aux yeux. Après une trentaine de minutes de vol, les portes du biturbopropulseur philippin s'ouvrent brutalement. Deux soldats sortent leur appareil pour photographier les rangées de navires chinois qui quadrillent la zone autour du banc, second Thomas. À 200 km des côtes philippines, il est à plus de 1000 km de l'île chinoise de Hainan. Alors que l'avion amorce sa descente, un petit caillou apparaît dans le hublot. Vu du ciel, il semble n'y avoir rien d'autre qu'une piste d'atterrissage et quelques bâtiments. Ce rocher, c'est Titu, ou Pagasa en tagalog, un bout de terre en plein cœur de cette zone contestée, habité depuis la fin des années 1990 par des civils. Ils sont plus de 200 désormais.
Je m'appelle Ronnie Kojemko, j'ai 48 ans, et je suis arrivé ici à Pagasa en 1999. À l'époque, on était seulement 6 civils. Il n'y avait rien ici, aucune installation, seulement ce petit dispensaire. Et là-bas, tout cela, c'était de la forêt.
Avec sa moustache et sa casquette vissée sur la tête pour l'abriter du soleil, Ronnie est une figure centrale de l'île. C'est l'un des premiers habitants de Pagasa.
Nous sommes plus que des civils. Ici, nous avons un devoir à remplir envers notre pays. Nous vivons sur Pagasa pour défendre notre territoire, conserver ce qui nous appartient. On n'est pas juste là en tant que fonctionnaire municipal, mais en tant que gardien du territoire. Et c'est notre devoir de faire savoir au monde entier que des Philippins vivent ici.
Cette curieuse installation civile sur un bout de caillou s'explique par le positionnement stratégique de l'île. Occupée par Taïwan jusqu'en 1971, les Philippines sont parvenues à s'en emparer en profitant d'un orage. Lorsque les différents territoriaux ont émergé avec les voisins vietnamiens et chinois, il est devenu important pour Manille d'occuper le terrain.
Quand on est arrivé, le maire de l'époque nous avait donné comme mission de nettoyer la zone. Et puis en 2003, les gens ont commencé à arriver, car le maire souhaitait que des civils s'installent ici. On nous donnait du bétail pour nous permettre de vivre correctement, et il y avait déjà des gens qui souhaitaient rester.
Et à cette époque, quel était le comportement des navires chinois ?
Il n'y avait pas la moindre présence chinoise. Il n'y avait que des bateaux de pêcheurs vietnamiens, mais pas de garde-côtes ou de bateaux chinois. En 2007, ils ont commencé à drainer le sable et à prendre le corail. Et puis nous avons découvert qu'ils prenaient cela pour construire leur île artificielle là-bas.
Cette île, c'est le récif de Subi, l'un des 7 avant-postes chinois dans les Spratleys.
Avant, on se sentait très seul ici. Mais maintenant, il y a beaucoup de civils qui vivent ici. Mais si on parle de la mer, de notre mer, forcément, nous sommes inquiets, car il y a beaucoup de navires chinois là-bas. Pour beaucoup d'entre nous, la pêche est un moyen d'obtenir des revenus supplémentaires. Mais nous sommes forcément inquiets, car leurs navires sont là, juste à côté. Ce n'est plus comme avant, quand on allait pêcher sereinement. Maintenant, on craint d'être pourchassé.
Une scène que connaît bien Larry Hugo, l'un des plus vieux pêcheurs de Titou.
Hello Larry.
Bonjour.
Hello, good morning. How are you?
Nice to meet you, sir.
Nice to meet you.
Ce quadragénaire installe méticuleusement la prise du jour sur un séchoir installé dans son jardin avant qu'on lui demande de se plonger dans ses souvenirs.
Then mapansin nila na may mga sibilyana doon. Ako pa yung
À mon arrivée, il n'était pas encore dans le secteur. Et quand on a découvert qu'il construisait sur le récif de Subi, ils ont commencé à nous empêcher, nous les civils, de nous rendre autour de la zone. Ils nous bloquaient pour que l'on ne voie pas ce qui se passait. Une fois, j'ai failli être percuté par les navires chinois.
Face à ce qu'il appelle les milices chinoises, une forme de lassitude s'est installée.
Je me suis habitué aux Chinois, je n'ai plus vraiment peur d'eux. Comme la pêche est mon activité principale, je les vois tous les jours. Ils sont juste à 2,5 miles nautiques d'ici. Mais on évite les zones où ils sont rassemblés pour limiter le risque d'accident.
Mais s'il s'est habitué à l'omniprésence des navires de Pékin, le gouvernement, lui, la rejette. Depuis son élection en 2022, le président Ferdinand Marcos Jr. prône la fermeté face aux incursions chinoises.
Le précédent gouvernement avait des relations amicales avec la Chine, donc ils ignoraient ce qui se passait ici. Maintenant, je vois les choses s'améliorer.
Car les autorités actuelles veulent faire de Pagasa un symbole, celui de la lutte du pays contre l'ogre chinois. Alors l'État mobilise des ressources pour montrer que les civils occupent le terrain. Sur la place du village, quelques femmes discutent, assises sous une cabane à l'abri du soleil de plomb qui frappe l'île à l'heure du déjeuner. Parmi elles, Anna Rea Banya.
Nous sommes encouragés à vivre ici parce que l'on reçoit du riz, de la nourriture, un logement et de l'eau gratuitement. C'est cela qui nous fait rester.
À cela s'ajoute une pension mensuelle de 130 euros.
Je suis vraiment satisfaite de ma vie ici. Nous pouvons mettre beaucoup d'argent de côté car il n'y a pas de frais d'éducation. Les fournitures scolaires sont gratuites. L'éducation est aussi de bonne qualité car il y a des professeurs du ministère de l'Éducation qui viennent ici.
L'école pour les 83 enfants de Pagasa se déroule dans une petite salle de classe. Au milieu des enfants qui courent, une enseignante fraîchement débarquée tente de maintenir le calme, tant bien que mal.
Hello teacher.
My name is Leilani.
Je suis Leilani Magayan de Quezon sur l'île de Palawan.
Palawan.
When did you arrive here?
Last Friday.
Vendredi dernier, nous sommes 6 enseignants à être arrivés à Pagasa ces derniers jours. Comme nous sommes de nouvelles recrues, on va rester ici pendant au moins 3 ans.
We are going to stay here for 3 years.
Les autorités effectuent des rotations fréquentes, car vivre sur ce petit rocher est un sacrifice. Cela signifie se couper de ses proches, mais aussi affronter de vrais défis logistiques, notamment dans le domaine de la santé. Seul un petit dispensaire est géré par l'infirmière Jocelyne Delacroix.
There is really a need of medical staff. That's why me and my...
Il y a un vrai besoin de personnel médical. C'est pour cela qu'avec mes collègues sages-femmes, nous avons décidé de venir ici. Nous sommes là depuis 2021. Pour l'instant, il n'y a pas de médecin ici.
No, we don't have any doctors here.
Okay. Pour les plus de 200 habitants, seuls quelques lits et le strict nécessaire pour les premiers soins sont à disposition.
For now, we have complete medicines for...
Nous avons tout le nécessaire pour la médication orale, mais il nous manque les traitements en intraveineuse. Pour l'instant, le processus est le suivant. Si nous avons un patient ici, nous l'examinons en tant qu'infirmière et sage-femme, et ensuite nous envoyons toutes les informations à un médecin des gardes-côtes des Philippines.
Philippine Coast Guard.
En cas d'urgence, le patient doit être évacué par l'armée de l'air. mais la vie devrait continuer à s'améliorer sur ce petit rocher, véritable anomalie géopolitique. Pour Mani, l'idée est de préserver la présence civile afin de pouvoir peut-être un jour exploiter la zone économique exclusive autour de Titou. Un trésor maritime riche en pêche mais aussi en gaz naturel. C'est un enjeu crucial alors que le principal gisement du pays sera bientôt à sec. Lors de sa visite, le président de l'Assemblée nationale a promis de nouveaux investissements à hauteur de 50 millions d'euros afin de poursuivre la modernisation du port, du bureau des gardes-côtes mais aussi d'améliorer la vie des habitants. Une aide dont tous les Philippins affectés par le conflit territorial avec Pékin ne bénéficient pas. Car la présence chinoise se fait aussi sentir plus au nord, proche du récif de Scarborough, une zone de pêche historique des habitants de la région de Zambales et plus particulièrement de ceux de la ville de Massinloc. Les 45 000 âmes qui l'habitent ont été propulsées sur le devant de la scène médiatique après la recrudescence des échauffourées entre navires philippins et chinois. Dans le petit port de la ville, les prises du jour sont vendues à la criée. Les poissons entassés dans des bacs blancs sont fréquemment arrosés d'eau de mer afin de garder un semblant de fraîcheur. C'est dans ce décor qu'Anthony nous interpelle.
Une interview sur Scarborough, j'ai plein de vidéos de Scarborough.
Rapidement, le trentenaire, plutôt affable, nous guide vers son capitaine qui organise leurs expéditions vers le récif. Une fois réveillé de sa sieste, Efren va s'asseoir au soleil sur une chaise en plastique. Il profite de ses quelques jours sur Terre avant de repartir en mer. Avec ses cheveux blonds en bataille et son short des Los Angeles Lakers, difficile de deviner que c'est un marin aguerri. Il a pourtant l'habitude de diriger des expéditions d'une à deux semaines vers Scarborough.
C'est une zone avec beaucoup de bons poissons là-bas, surtout la zone ouverte, celle qui est gardée par les Chinois. Mais on ne peut pas s'en approcher. C'était seulement pendant la présidence de Duterte que l'on a pu y retourner. Mais il y a toujours des zones inaccessibles gardées par les Chinois.
Dans leurs frêles embarcations, ils ne pèsent pas bien lourd face à l'écrasante flotte de Pékin.
Les bateaux des gardes-côtes chinois sont plus grands que ceux des Philippins. Il n'y a pas un, mais 7, 10, nettement plus de bateaux chinois.
Ils nous empêchent de pêcher. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent de gigantesques projecteurs de lumière qu'ils braquent sur nous. Et cela diffuse tellement de chaleur que c'est insupportable. Il ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu quittes la zone. Cela nous fait perdre beaucoup d'argent.
Sur leur portable, ils font défiler les vidéos de leur rencontre avec les navires chinois.
Regardez là, vous voyez ? C'est un navire de notre bureau de pêche et des ressources aquatiques en train de se faire asperger par des canons à eau chinois. Leur bateau a été endommagé. Là, ils sont trois à se faire asperger par leurs canons.
Ils s'estiment démunis et en partie abandonnés par les autorités incapables de défendre le territoire.
Nous avons beaucoup de gardes-côtes qui viennent, mais ils ne peuvent pas passer et aller dans cette zone. La Chine protège ses pêcheurs, mais pour nous, il n'y a pas de protection. Souvent, quand on est interviewé et qu'on nous demande « qui vous protège ?», on répond « les gardes-côtes chinois ». C'est les seuls à être là.
Malgré leur sens de l'humour, la multiplication des accidents les inquiète. Ces derniers mois, les accrochages se sont répétés à tel point qu'ils craignent que les tensions ne basculent dans un conflit armé.
Nous, on essaie de gagner de l'argent. Eux, la guerre, c'est leur vie.
Mais malgré le danger, ils y retournent dès que possible.
Dès que la météo permet d'aller à Scarborough, on y va. On pourrait pêcher ici aussi, mais ils sont trop petits, pas comme là-bas. On préfère Scarborough, la pêche y est vraiment meilleure.
Pour l'instant, le gouvernement ne compense pas leur perte de revenus. Mais les autorités essayent de s'attaquer au problème, car le harcèlement chinois, comme l'appellent les Philippins, s'est transformé en une véritable cause nationale. À tel point que des citoyens se sont joints à la lutte. En décembre, un convoi civil a été organisé pour aller ravitailler les pêcheurs philippins et les soldats en poste dans la mer de Chine méridionale. Rafaela David, présidente du parti d'opposition Akbayan, est à l'origine du projet. Nous la retrouvons dans un parc du centre de Manille.
Notre objectif, c'était d'apporter l'esprit de Noël à notre avant-garde et aux communautés de pêcheurs qui sont le plus atteints par les actions de la Chine et leur occupation de la zone. C'était une manière de montrer que des citoyens ordinaires peuvent se réunir et défendre notre intégrité territoriale, notre souveraineté dans nos eaux contre le harcèlement chinois.
Près de 200 volontaires ont embarqué dans deux bateaux accompagnés par des dizaines de pêcheurs venus les escorter.
Nous sommes partis vers minuit et au réveil, on apprend qu'il y a déjà du harcèlement qui se déroule à l'atoll Second Thomas alors qu'on n'y était même pas encore. Vers 3h40 de l'après-midi, on pouvait déjà voir ce grand bateau se diriger droit vers nous. Et on s'est rendu compte, quand il s'est approché, que c'était un bateau de la marine chinoise, un bateau de guerre.
Chinese naval ship. It was a warship.
Rapidement, Rafaela comprend qu'il sera difficile d'atteindre le banc Second Thomas et de réapprovisionner les soldats.
After a few minutes, one of our volunteers...
Après quelques minutes, un des volontaires vient nous glisser qu'un autre navire se dirige vers nous, et puis un autre. À ce moment-là, il y en a au moins trois. Et puis notre capitaine voit qu'un des navires des gardes-côtes a changé de direction et tente de venir nous rentrer dedans.
Face à la présence constante des navires chinois, la mission a été jugée trop dangereuse pour être poursuivie.
Notre capitaine a pris la décision de nous faire rentrer, car s'il ne le faisait pas, il n'y aurait pas assez de temps pour éviter une collision avec le bateau des gardes-côtes. Et le capitaine avait la responsabilité des gens présents à bord. Et même si nous voulions continuer, il a pris la décision qu'il fallait rentrer.
Un petit navire du convoi est tout de même parvenu à poursuivre sa route et à porter des provisions aux soldats et aux pêcheurs. Rafaela et les autres membres de la coalition souhaitent renouveler l'expérience pour normaliser leur présence dans la zone économique exclusive de leur pays. Ces missions de réapprovisionnement sont habituellement organisées par les forces armées philippines. Nous nous rendons dans leur quartier général.
Radio.
Media?
What?
Media?
Yeah, French radio.
Camp Aquinaldo, à Quezon City, dans la zone urbaine de Manille. Un large complexe militaire avec son golf et ses nombreuses installations, depuis lesquelles les officiers déterminent et mettent en application la politique de défense du pays. La colonelle Francette Margaret Padilla est la nouvelle porte-parole des forces armées philippines. Elle détaille les menaces auxquelles l'armée a dû faire face dans ces eaux contestées.
Les gardes-côtes chinois ont perturbé nos missions de réapprovisionnement de différentes manières. Dans certains cas, il y a des manœuvres dangereuses. Nous avons aussi des attaques de lumière laser vers ces navires et des canons à eau. Nous considérons qu'il s'agit d'activités illégales parce que nous effectuons simplement une mission régulière à l'intérieur de notre zone économique exclusive. C'est donc le problème que nous essayons de résoudre ces dernières années et ces derniers mois.
Et pour y parvenir, le pays a connu une rupture stratégique avec l'arrivée au pouvoir de Ferdinand Marcos Jr.
Our president actually gave a directive.
Notre président a défini une directive qui est la fondation de notre stratégie. Il a dit « Nous ne céderons pas un pouce de notre territoire ». Et c'est ce que nous faisons. Un processus est en cours afin d'utiliser nos fonds de modernisation pour renforcer nos capacités unilatérales. C'est comme cela que nous souhaitons protéger réellement nos eaux territoriales.
Moderniser la marine et l'armée dans son ensemble semble être un mal nécessaire pour réduire l'énorme écart qui existe entre les capacités des armées philippines et chinoises.
Nous allons continuer à renforcer notre dispositif de sécurité. Nous augmentons le nombre de nos patrouilles aériennes, maritimes, la présence de nos forces navales et aériennes. Nous allons également retirer des ressources consacrées à lutter contre les insurrections internes afin qu'elles puissent être consacrées à la défense de notre territoire. Et puis cela sera également renforcé par nos alliés grâce à nos partenariats et à des collaborations avec des nations qui partagent les mêmes valeurs.
C'est le virage clé qui fait désormais de la zone l'un des points de tension géopolitique les plus importants au monde. Les Philippines se sont rapprochées des États-Unis. L'armée américaine a désormais accès à 9 nouvelles bases, dont 2 à quelques centaines de kilomètres de Taïwan. Mais l'Australie, le Japon et la France participent aussi cette année aux exercices militaires annuels philippins intitulés Balikatan. La Chine, elle, n'est évidemment pas conviée.
En mer de Chine, la réplique des Philippines à Pékin. Un grand reportage de Nicolas Roca, réalisation Tiffany Menta.